Chers lauréats, bien chers tous, pour vous inspirer, nous avions choisi avec Marie-France quelques mots de Georges-Emmanuel Clancier, tirés de la préface de son recueil « Les Incertains », paru en 1977 chez Segers. Je vous redonne cette citation merveilleuse qui vous a accompagné. « Il faut nous émerveiller de ce que la vie comporte, malgré les heures ternes et malgré les heures tragiques. » Des îles claires où l'amour nous révèle la grâce des êtres et des instants. C'était une belle proposition et vous avez été séduit et porté par ces mots de Clancier tellement que nous comptons cette année, six lauréats. Vous avez su tisser le fil de plusieurs histoires pour écrire vos nouvelles, celle de notre haut plateau, l'histoire de Clancier, vos propres chemins de vie. Vous avez fait ressurgir le passé, ses sons, ses saveurs, ses gestes, mis en lumière, pour reprendre les propos de ma complice Marie-France, six histoires d'heures tragiques et d'îles claires au cœur de vos récits. Je vais paraphraser Thomas Bauer, l'un des membres de notre jury, et vous dirai qu'à la suite de Clancier, vous avez su communiquer à vos lecteurs un mot de passe, une méthode pour aller au-delà du visible et un secret, l'existence d'un trésor fabuleux. Le recueil porte le joli nom « La grâce des êtres et des instants ». Nous souhaitons à nos lecteurs qui découvriront vos pages et à chacun d'entre vous de vivre et d'apprécier ces moments de grâce qui se présentent à tous, à un moment ou à un autre. Restons tous disponibles et à l'écoute pour les reconnaître et les apprécier. Bravo à tous les lauréats pour votre réussite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est à Bugeat, on est dans un très beau jardin à l'arrière d'une maison du bourg de Bugeat et on sort du marché. Et en ce moment, il y a un vide-grenier, il y a beaucoup de choses qui se passent à Bugeat aujourd'hui. Et on est en compagnie de Sophie Van Rockegem, qui est donc présidente des Amis de Bugeat.
Du pays de Bugeat.
Du pays de Bugeat, oulala, si j'en oublie. Et de Marie-France Houdard, qui est présidente, notamment, entre autres fonctions, du jury du prix de la nouvelle Georges-Emmanuel Clancier. Voilà, bonjour.
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 Bonjour, Radio Vessivière.
Et alors voilà, à mes côtés, Élise et Elliot, qui sont là pour co-animer avec moi, que j'ai embarqué dans la voiture ce matin. Voilà, on est là pour parler de ce fameux prix de la nouvelle Georges-Emmanuel Clancier, dont les résultats viennent juste d'être proclamés justement sur ce marché dont on vient. On recevra tout à l'heure deux des lauréats de la nouvelle, parce qu'il y a pas mal de lauréats, on va en parler pour cette édition 2025. Peut-être qu'on peut déjà parler du prix, rappeler un petit peu ce que c'est que ce prix, qui veut en parler ? Marie-France, peut-être.
Et je ne sais pas, on l'a créé ensemble.
Alors le prix, déjà, c'est la grande chance d'être édité aux éditions Maillade.
Oui.
C'est quand même...
Et d'avoir un patronage de Georges-Emmanuel Clancier. Avec la permission de son fils, Sylvestre.
Voilà.
Voilà, donc ça, c'est le prix en tant que récompense.
Ah, oui.
Mais disons, le concours, comment on peut en parler ?
Le concours, en fait, on choisit chaque année une citation tirée des recueils de Georges-Emmanuel Clancier, qui est un magnifique poète que certains découvrent à l'occasion de ce prix, en réalité. Et cette année, on avait choisi une citation superbe qui était tirée de la préface de son recueil « Les Incertains ». Je vous la partage.
Peut-être qu'avant de partager cette superbe citation, effectivement, je pense qu'on va y revenir longuement, on peut peut-être rappeler qui était Georges-Emmanuel Clancier, parce que malheureusement, il n'est pas toujours connu des générations actuelles.
Il est décédé il n'y a pas longtemps. Hein. Il est décédé à
102 ans. 102 ans, je crois.
102 ans. Donc, il n'y a pas du tout longtemps, il y a quelques années. C'était un vieux monsieur...
Un poète de génie.
Poète, conteur. Et il se trouve que une des premières œuvres qu'il a écrites... Il l'a écrite à Bugeat, une nouvelle.
Voilà, il était atteint d'un pneumothorax, en fait, et on l'avait envoyé prendre le bon air à Bugeat. Il était jeune, il était encore lycéen. Il est arrivé, il a commencé à écrire une nouvelle, puis une seconde nouvelle, qui ont été oubliés dans un grenier et retrouvés un beau jour par ses enfants qui ont donné l'autorisation à notre association de publier ces inédits. Donc en fait, les premiers écrits de Georges-Emmanuel Clancier rédigés à Bugeat ont été édités par l'association des Amis du Pays de Bugeat.
Le premier et le deuxième, la couleuvre du dimanche, on l'a inclus dans le recueil de nouvelles des lauréats de l'an dernier.
Voilà, et donc...
On a eu des correspondances avec ceux qui ont édité cette nouvelle à l'époque, en 1937, et ils parlaient de lancer des nouveaux talents, des nouveaux écrivains, quelque chose comme ça. Donc, on a pensé que c'était vraiment ce qu'on voulait faire, nous.
Et donc, c'est ce que vous avez fait il y a quoi, 4 ans, du coup ?
C'est la quatrième année.
Quatrième année. Donc on peut rappeler le principe du concours, il est assez simple. Hein,
il est assez simple. Donc on cherche une citation, on essaye de la communiquer aux alentours de la Toussaint. Les candidats, c'est ouvert à tous et depuis cette année aux candidats qui seraient étrangers, et, donc auraient le français en langue étrangère. Donc c'est vraiment une nouveauté de cette année. Et donc ouvert à tous, y compris un prix jeune. Donc, il y aurait deux catégories. Un prix jeune, pour le moment, on n'a pas eu de jeunes.
Pour le moment, il faudrait que ça vienne.
Des collégiens, ce serait bien, oui. Et donc, et adultes. Et donc, l'idée, c'est de s'inspirer de cette citation, de la mettre en exergue et de la reprendre au sein de la nouvelle, d'une manière ou d'une autre, s'il y a deux phrases séparées ou ensemble, comme, selon l'inspiration. Et de créer une nouvelle qui respecte, entre guillemets...
les caractères de la nouvelle.
Voilà, les caractères.
C'est pas un récit de vie, c'est pas des mémoires, c'est comme une œuvre d'imagination, même si elle s'inspire de faits réels. Mais la nouvelle, c'est qu'à la fin, il y a quand même une chute qui est surprenante.
Ça fait partie de la définition d'une nouvelle.
Il y a une définition. Oui. Il faut se repencher. On redonne d'ailleurs une bibliographie très complète. Et quelques critères de la nouvelle.
Oui, on demande que ça se passe en Limousin.
Oui.
En Limousin, donc.
Voilà.
C'est assez large. Est-ce que Georges-Emmanuel Clancier, donc on a dit qu'il était venu à Bugeat alors pour des raisons médicales, mais...
Il était à Limoges.
Il est né au bord de la Briance, donc...
Et une partie de son œuvre, d'ailleurs, traite du Limousin.
Oui. Et alors, ce dont on s'est rendu compte a posteriori, c'est que de mettre en exergue des nouvelles, une citation de Clancier, ça hausse le niveau
des récits.
Parce qu'on est obligé, parce que c'est pas une vulgaire phrase de journaliste ou tout ça. C'est vraiment...
Oui, non, pas de une vulgaire phrase de journaliste.
Ben non, hein. C'est... Waouh, j'ai fait la gaffe.
Aïe.
Non, mais enfin, c'est un poète qui écrit.
C'est une poésie, quoi. C'est des phrases, c'est à un certain niveau. Et donc, les candidats sont amenés quasiment à s'en inspirer, à continuer cette phrase, à prolonger, à l'illustrer. Parce que là, c'est vraiment l'illustration des heures sombres, des heures claires. Et puis que finalement, on dépasse.
Alors,
et puis,
on va, je sens qu'il y a besoin là, qu'on lise cette citation, parce qu'on va commencer à être présente dans la conversation. Donc peut-être qui veut la lire.
Eh ben, tu l'as.
Ou peut-être on peut faire lire. Est-ce que Élise, tu aurais envie de lire?
Oui, je peux la lire. Il faut nous émerveiller de ce que la vie comporte, malgré les heures ternes et malgré les heures tragiques, des îles claires où l'amour nous révèle la grâce des êtres et des instants.
Ça t'aurait inspiré, Elliot?
Je sais pas, mais peut-être si je me penche un peu dessus.
Faut décortiquer, les heures sombres, les heures claires, et puis malgré tout ça, continuer sa vie et arriver à, on se rend compte qu'on aboutit à la grâce, quoi.
Derrière l'amour.
Voilà, si on dépasse tout ça, c'est les coups de la vie qui peuvent vous frapper. Si on sait le dépasser, on peut arriver à des moments.
Et du coup, les gens, cette phrase, ils la mettent plutôt au début, au milieu, à la fin?
Alors, en fait,
ils
doivent la mettre au début, en épigraphe, en fait. Et ils doivent aussi la reprendre à un moment ou à un autre au sein de la nouvelle. Soit ils proposent à un de leurs personnages de se l'approprier, soit voilà, c'est tout est possible.
Alors, moi j'ai une question. L'œuvre de Clancy, elle est assez immense, je crois, en termes de quantité. Ouais. Comment on va chercher une phrase là-dedans? On lit toute l'œuvre et puis.
Sophie, qui était professeure de français, elle s'y colle. Bon, j'en ai lu, mais quand même, elle épluche.
Je retrouve une amie, en fait, qui fait partie du jury depuis cette année, Clarisse Berthet. Et on lit, on épluche jusqu'à ce qu'on trouve une citation qui nous aurait inspiré, en espérant qu'elle inspire les candidats.
Et alors celle-ci, qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix cette année?
Ah, c'était, on va dire, les circonstances actuelles, géopolitiques, qui nous ont amenés à chercher une citation qui puisse rayonner, donner une petite ouverture de lumière, on va dire. Et donc, c'est ça qui nous a conduit à cette citation.
Mais au final, on va en parler un petit peu. Dans les résultats, on a quand même quelque chose d'assez sombre aussi, malgré tout.
Sombre, mais...
Avec de la lumière.
Mais... Voilà, il y a toujours un pan de lumière.
Il y a la lumière qui jaillit à la fin, hein, tous. Ouais, ouais. Tous.
Ah, oui.
C'était jamais défaitiste, c'est jamais... Non, c'est...
Alors, bah, on va peut-être parler un peu de... Donc, on a du résultat du concours. On recevra des lauréats. Alors, on ne pourra pas malheureusement recevoir la lauréate du premier prix parce qu'elle a dû partir un peu plus tôt que prévu, mais on aura deux candidats qui ont aussi gagné un prix. Donc, on a dit qu'il y a eu 6 prix cette année. C'est voilà, grande année. Alors, c'est quoi? Ouais, c'est que vous n'avez pas du mal à faire des choix?
Oui, il y a eu du mal à faire des choix. Et puis, il y a eu ce français langue étrangère, parce qu'on s'était dit, si on le publie comme ça, peut-être qu'il y en a qui disent « Oh, ben, c'est drôlement mal écrit » ou « Ça, ce mot-là, il n'existe pas ». En fait, si, on s'est rendu compte que, comme la barque faillait, c'est un vieux mot.
Alors, bah, du coup, si on parle de lui, peut-être on peut parler. On commencer par ce texte-là. Donc, c'est le prix un peu exceptionnel cette année qui sera conduit. Donc, c'est un texte de Maximilien Smart qui s'appelle donc la barque d'argile. Et donc, effectivement, Maximilien habite en Corrèze, mais
il habite à Vian, tout près, vraiment à la Moratti.
Ouais.
Il est citoyen anglais,
époux d'une
potière
remarquable.
D'art.
Ouais.
Potière d'art, hein, pas de la poterie, faire des assiettes et ça, non, c'est vraiment des œuvres d'art.
Matt est aussi artiste plasticien. Et donc on lui a confié d'ailleurs les expos du festival Spock d'automne prochain. Il va venir avec un collectif d'artistes et entrer dans l'Ambuja et animer Buja avec ses expos.
Voilà, donc là c'est la présidente des amis du pays de Buja qui fait sa communication pour l'automne. Mais on y reviendra sur Radio Vassivière, ne vous inquiétez pas Sophie.
Mais pour répondre à votre question précédente concernant la manière dont il écrit, tout à l'heure en lisant une des phrases, j'ai un bel exemple, c'est « Il se fait tard, le sourire expansif du soleil embrasse déjà les cimes des collines qui descendent au rivage, là où on voit les troncs qui se tiennent en équilibre dans la fine couche de terre comme des moines en prière. » Le sourire expansif du soleil embrasse déjà les cimes. On hésite, on se dit, c'est peut-être qu'il a voulu écrire « embrase » les cimes. Mmh. Mais en fait, non.
Mais non.
Il a voulu écrire « embrasse », clairement. Donc, mais à chaque fois, ça fait une ouverture de sens qui... ça me fait penser un peu aux surimpressions photographiques de Mika Dominguez, où on ouvre à chaque fois une parenthèse et finalement, c'est sans fin.
Je crois qu'il y a une citation assez connue en littérature qui dit que être... écrivain, c'est être étranger dans sa propre langue. Je ne sais plus qui disait ça.
Oui, ouais, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment...
Mais la première année, on disait quand même, je ne sais pas si ça peut passer, ça.
Mais en fait, la poésie est cachée derrière ces...
La poésie est cachée.
Les moindres termes.
Mais des fois, il y avait quand même quelques anglicismes. Mais alors là, cette année, il n'y avait plus de doute. Ouais,
c'était excellent.
Donc ben voilà, ben, Matt n'est pas là pour défendre son texte, je pense pas qu'il
le défende
d'ailleurs, vous le défendez très bien.
Et puis c'est une histoire un peu originale quand même.
L'histoire est très belle, il y a quelque chose de très fort qui se passe, on n'en dit pas plus.
On n'en dit pas
plus. Ça se passe la nuit au milieu d'un lac, voilà, il y a du suspense.
Il y a du suspense, il y a des cendres, qu'est-ce que c'est que ces cendres?
Il faut vraiment découvrir le recueil de toute manière. Oui. Et le titre est magnifique, La grâce des êtres et des instants. Rien que le titre, ça donne envie d'acheter
le recueil. C'est la fin de la citation de Clancy.
Voilà.
Et du coup, vous avez reçu à peu près 17 nouvelles, c'est ça?
Voilà, on a reçu 17 nouvelles. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre jury est très divers. On part du prix Femina Alain Apsir à Sylvestre Clancier, donc fils de Georges-Emmanuel Clancier, à la directrice du centre sportif de Bugeat, qui est l'un de nos sponsors d'ailleurs.
Mmh. Un poète du plateau,
Modeste Desmonédières, Sylvie Lachaud, qui est conseillère municipale en charge de la Bugeat. Culture à Bugeat. Ou Amit Sabah, qui est iranien. Oui. Qui nous manque cette année, mais voilà, qui fait partie du jury et qui a aussi encore une autre approche avec sa culture. Notre jury est très divers et en fait, quasiment chacune des nouvelles proposées a pu être coup de cœur de l'un des membres du jury.
Pas d'orphelin,
c'est incroyable. Ça montre bien voilà, le fait que toute personne qui écrit, en réalité, peut-être choisi. Et les ex-échos, en fait, c'est très simple. On envoie, avec Marie-France, on envoie un barème. Et donc chacun note l'originalité,
le style, le respect du sujet,
la chute, enfin voilà. Et il y en a effectivement quatre, en tout cas, qui étaient ex-échos, alors qu'il y a pas mal de critères.
Un demi-point près.
Donc, il n'y a pas une discussion pour arriver au consensus sur un prix. C'est une grille d'évaluation.
Oui.
Le jury ne s'est pas réuni, c'est ça ?
Il est éparpillé. Donc, du coup,
il n'est pas local.
Ce qu'on peut dire, c'est que mis à part les premiers, à chaque fois, les premiers se distinguent, l'année dernière aussi. Mis à part les premiers qui sont vraiment au-dessus, les autres sont dans un mouchoir de poche. Je veux dire, les 2, 3, 4e sont dans un mouchoir de poche.
Voilà, donc 6 lauréats, pardon. Donc on a parlé du premier, on peut parler du premier prix. Donc on a dit le prix jeune a du mal un peu à décoller, mais ça va être le cas sans doute l'an prochain. J'ai cru comprendre qu'il.
On espère, il faudrait que des professeurs de collège qui relèvent un peu le défi.
Il faudrait faire passer le message aux professeurs de collège.
Par contre, quand même, la lauréate du premier prix de cette année, alors elle n'est pas adolescente, mais
elle est jeune, elle a 27 ans. Ça nous a vraiment fait plaisir. Oui. Elle a 27 ans, elle habite à Trégnac, elle est juste à côté. Donc.
On peut donner son nom ?
Oui, c'est Marine Surget.
Marine Surget.
Avec Faustin et Gentil.
C'est vraiment une jolie et gentille histoire de ce garçon. Vous avez entendu des extraits tout à l'heure. De ce garçon un petit peu à part, un petit peu qui ne réussit pas à l'école et qui est très gentil. Et puis en gardant ses vaches, il y a une jeune femme qui lui apparaît.
C'est assez difficile à situer dans le temps. Moi, j'ai pu lire les nouvelles avant le prix. Je me demandais, on se demande si on est début 20e, voire même des fois au 19e. Et puis en fait, il y a quelque chose d'assez intemporel qui ressemble un peu au Limousin.
Une intemporalité incroyable.
Parce que comme le Limousin est resté longtemps un peu à part, un peu archaïque,
différent.
Ou un peu différent.
Disons différent.
Voilà.
Hein. Non, mais archaïque.
On va pas se fâcher avec le Limousin.
Mais archaïque, pour moi, c'est un compliment, parce que ça veut dire qu'il a gardé des choses d'autrefois que les autres régions.
Les traditions, oui.
Et puis des légendes.
La culture.
La culture et l'esprit porté un peu vers le merveilleux que d'autres régions ont complètement évacué. C'est ça que trouvent les gens qui viennent ici. Ils découvrent un autre monde. Alors, il y a une jeune fille qui lui apparaît alors qu'il s'est endormi en gardant ses vaches. Et puis, il part, elle le suit. Et ensuite, tout de suite, il y a les parents qui arrivent. Regarde, qu'est-ce qu'il nous a ramené cette fois ? Bon, voilà. Donc, il se rend compte, la vieille mère se rend compte qu'elle est enceinte. Donc, une bouche en plus à nourrir. Qu'est-ce qu'on va dire dans le village ? Et puis, comme Faustin est gentil, il passe outre. Et puis, c'est lui qui va la suivre jusqu'à la fin. Et
on n'en dira pas plus.
Et voilà, c'est tout.
Mais
je ne dis rien.
Voilà, donc une belle nouvelle à lire dans ce recueil. Donc on l'a commencé un peu à le dire, donc des nouvelles sont éditées dans un ouvrage, comme chaque année, édition de la Maillade, qui sont les éditions dirigées par vous, Marie-France. Mmh. Donc cette année, pour le prix d'un seul ouvrage, c'est vraiment l'année où il faut l'acheter, puisqu'on en a 6. Qu'est-ce que ça t'inspire, Elliot, un livre comme ça, voilà.
Est-ce que je l'achèterais ?
Ouais, voilà, tu as 6 nouvelles pour le prix d'un.
Oui, je pense que oui. Hein.
Oui.
C'est un bel ouvrage, en plus.
Voilà, il y a des résumés derrière, ça te donne envie. Voilà, beau papier.
Je sais pas quoi. Non, ouais, c'est une belle couverture. Une
belle police d'écriture.
C'est une bonne question piège.
Voilà. Puis les titres sont sympas, donc voilà. Ouais. Ça donne, je pense, ça me donnerait envie.
Voilà. Bon.
Et donc, bah voilà, donc Marine Surget, premier prix. Et puis, donc, on recevra tout à l'heure Yves Perel et Colette Laprévotte qui ont aussi eu des prix. On peut parler aussi de la nouvelle de Bénédicte Frisé, Le jour où Zacharia a couru.
Alors là, oui, parce que
c'est très local.
C'est très local.
Elle se situe du côté de Bugeat.
Ben voilà, elle avait été troisième prix l'année dernière. Mmh. Elle a récidivé, c'est très bien. Bénédicte Frisé, oui, donc elle aime beaucoup écrire. Et ben, j'en ai discuté avec elle. J'en profite parce que ce prix, c'est vraiment une occasion de révéler quelqu'un qui n'aurait pas peut-être eu l'aplomb ou le courage ou la confiance en soi d'écrire quelque chose de plus important. Alors, il se trouve que le premier prix de la première année, c'était Agnès Noailles qui avait écrit « Aubardine », un très joli texte. Et quand j'ai vu ça, elle m'avait déjà donné un texte, mais je ne la connaissais pas. Je dis, à ce moment-là, je lui dis, participer au concours de nouvelles. Donc, elle a eu le premier prix. Et du coup, ce que j'ai édité, c'est Entre les ronces de La Fontaine. C'est un superbe récit d'enfance, adolescence, en milieu paysan, et qui a un succès énorme, vraiment. Et elle a illustré par elle-même. Et Bénédicte Frisé, je lui dis, tu prépares quelque chose pour l'année prochaine? Elle dit, mais non, je crois, j'ai envie d'aller, de pas me faire imposer un sujet, j'ai envie moi-même d'écrire quelque chose.
Voilà, donc bientôt aux éditions de la Maillade.
Bon, verra.
On verra.
Mais c'est de mettre le pied à l'étrier à des apprentis auteurs, mais qui n'osent encore pas.
Mais on souhaite le même parcours aux candidats de cette année.
Ben oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose un peu qui vous a frappé dans l'ensemble des nouvelles que vous avez reçues, un ton, peut-être des choses communes ou
ben, c'est quand même assez varié.
Oui, c'est très varié, que ce soit les sujets ou le style.
Ou le style, oui, ouais. Oui.
Ce qui nous a frappé, on a eu plusieurs membres du jury qui nous ont dit être en pleurs à la lecture de la nouvelle d'Yves Perel, qui se trouve être par ailleurs, totalement par hasard,
oui,
le vice-président.
C'est un total hasard.
Ah, totalement. Total hasard. Le vice-président de l'association. Parce qu'en fait, évidemment, les nouvelles sont anonymées. Hein, on les envoie anonymées. Donc, personne
oui,
ne sait qui le corrige. Oui, sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, personne ne savait qu'il s'agissait de lui. Mais on a eu plusieurs retours en disant, il y a une nouvelle qui nous a vraiment tellement émus qu'on en pleurait. Et voilà, bah, il se trouve que c'est lui.
Et alors, d'autres ont été séduits par le texte, justement, de Bénédicte Frisé. Parce que c'est les dépassements d'un étranger qui arrive à Bugeat, hein, et puis qui va être en but à l'hostilité de la population qui vont l'accuser d'avoir enlevé une petite fille. Donc la presse s'en mêle, etc. Donc c'est une tournure un peu politique. Voilà, donc ça a beaucoup marqué certains aussi.
La politique fiction locale.
Locale.
Oui, on en profite pour parler du centre sportif qui a été créé à l'instigation de Mimoun, champion olympique en fait, qui courait, qui s'entraînait ici, il s'était marié à une bugeacoise. Et donc ces installations fabuleuses ont pu voir le jour parce que Jacques Chirac et Mimoun ont décidé de donner à la région, de doter la région de ce centre qui à l'époque était national d'ailleurs, centre d'entraînement national, qui est juste magnifique et qui peut accueillir 200 personnes et qui est l'un des partenaires du festival.
Voilà,
grâce à sa directrice Patricia Rivalier qui est extrêmement active et qui fait aussi partie des membres de notre jury.
Et voilà, ça a aussi servi du coup de cadre à la nouvelle de Bénédicte Frisé, Le jour où Zacharia a couru comme Alain Mimoun, justement.
Exactement.
Ben voilà, vous êtes contente de cette édition?
Ravie,
oui.
Ouais, ravie. Chaque année, on se dit que c'était
puis on
superbe.
Découvre, des fois, on découvre comme la petite Marine Surget, on ne la connaissait
non,
pas du tout.
Non, absolument pas. On n'a pas pensé à lui demander comment elle avait été mise au courant.
Colette Laprévotte, enfin, 3 sur 4, on ne les connaissait pas. Hein. Donc ce jour, aujourd'hui, on les a découverts.
Oui. Ouais.
Donc 2026, ça y est, c'est reparti.
C'est reparti, il va falloir qu'on reprenne avec bonheur les œuvres de Clancier, parce que la poésie, c'est quand même un vrai plaisir. Hein. Ça nous permet d'éclairer la vie, hein, réellement. Et donc voilà, on va se replonger dans l'œuvre de Clancier et essayer de trouver une citation.
Alors pour rappeler aux gens qui étaient Clancier, c'était quand même l'auteur d'un énorme roman à succès, Le Pain Noir. Oui. Tout le monde connaît Le Pain Noir.
Qui a été tourné au cinéma, d'ailleurs.
Oui. Qui est l'histoire de sa grand-mère. Mais là, bon, ça, c'est plutôt des œuvres poétiques.
Ben voilà, ben pour retrouver toutes ces œuvres, il faut s'adresser aux éditions de la Maillade.
Voilà.
On envoie un mail et on commande l'ouvrage. Ou sinon, ben Marie-France, on vous retrouve souvent sur des stands aussi.
Oui, oui,
à Brive.
Je serai à Feltin la semaine prochaine. Oui. Dans le Cantal, à la suite, donc un peu dans la région quand même élargie.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage et puis ceux des années précédentes aussi
Absolument.
Qui contiennent les autres nouvelles.
Il en reste quelques-uns.
Il en reste encore, donc précipitez-vous
voilà,
cet
exactement,
été.
Si vous voulez monter une collection.
C'est ça. Eh ben, merci à toutes les deux.
Merci beaucoup, merci à Radio Vassivière de nous avoir donné l'occasion de communiquer en amont et maintenant.
Voilà, et puis on va faire une petite pause musicale et on recevra Yves Perel et Colette Laprévotte.
Super.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Alors, pour cet intermède musical, on a le plaisir d'avoir à nos côtés Pascal Forgerite, qui est flûtiste et qui, tout à l'heure, lors de la remise des prix, nous a enchanté d'un petit air dont elle va peut-être nous parler. Bonjour Pascal.
Bonjour. Le petit air que je vais vous jouer est un air très célèbre qui se nomme La Méditation de Thaïs, qui est une pièce extraordinaire, mélancolique, voluptueuse, triste et absolument fabuleuse. Voilà.
Mais on vous écoute. Merci. Alors voilà, on accueille autour de la table deux des lauréats et lauréates du prix de la nouvelle 2025. Donc on a le plaisir de recevoir Colette Laprévotte. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et Yves Perel. Bonjour.
Et bonjour.
Vous avez dit dans votre présentation tout à l'heure au marché que vous n'étiez pas écrivain, donc est-ce que c'est votre premier texte, Yves Perel?
C'est le premier texte que je présente à un concours, oui, certainement.
Et que vous écrivez?
Et que j'écris, alors j'ai forcément écrit dans le professionnel, mais en écriture, oui.
Et vous, Colette, je crois que vous avez une activité d'écriture par ailleurs?
Oui, j'écris des recueils de poèmes. Voilà, et donc oui, c'est mon deuxième concours, puisque j'en avais gagné un à NAV aussi, j'étais lauréate, et je suis ravie d'être ici, présente.
Alors ben, on va revenir sur vos nouvelles. Mais peut-être qu'on peut déjà parler de l'expérience du concours de nouvelles. Donc comment on se dit un beau jour, tiens, je vais participer Un concours de nouvelles, c'est quand même pas rien comme démarche. Comment vous en avez entendu parler? Qu'est-ce qui vous a poussé, Colette, peut-être?
Eh bien, c'est en consultant, on va dire, Internet, un petit peu à la recherche des concours, mais plutôt par jeu. On ne se prend pas au sérieux. Et puis, il y a peut-être un concours qui attire plus l'attention que d'autres. Hein, et celui-ci m'a attirée parce qu'il y avait donc cette citation de Georges-Emmanuel Clancier qui tout de suite a déclenché en moi une envie d'écrire. Et pourquoi pas une nouvelle?
C'était un auteur que vous connaissiez?
Alors, je l'ai connu, je l'ai lu, je dirais, dans mon adolescence. Et puis, le temps a passé et je suis passée à d'autres auteurs, mais toujours ravie de refaire une petite piqûre de rappel de temps en temps.
Vous connaissiez cette citation en particulier ou...
Non, pas vraiment. Mais bon, le pain noir, par exemple, le titre, voilà, un des titres phares de sa production, oui.
Yves.
Oui, de mon côté, je savais que les Amis du Pays du Jat proposaient des nouvelles. Et c'est la citation de Clancier qui m'a incité, j'allais dire, à passer à l'acte. Alors, d'un point de vue associatif, moi j'ai eu la chance de rencontrer Georges-Emmanuel Clancier en 2012-2013. Je l'ai vu plusieurs fois dans son appartement et c'était un sacré bonhomme, hein, presque centenaire. Et sa phrase, de façon poétique, elle m'a fait penser à Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Elle m'a fait penser à Boris Cyrulnik, à des personnes comme ça. Et ça m'a donné, moi qui ne suis pas écrivain encore une fois, l'envie de parler de la vie.
Alors vous n'êtes pas écrivain, mais vous avez un rapport avec la vie, justement. Mm-hmm. Un rapport particulier. Enfin, tout le monde a un rapport avec la vie, mais disons que vous avez un rapport avec la vie des autres. Parce que je crois que vous êtes médecin.
Oui, je suis médecin, pédiatre. Je travaillais, puisque je suis jeune retraité, comme on dit, en cancérologie pédiatrique. Et la perspective de la vie, des points corporels, émotionnels, sensoriels, c'est quelque chose qui me fonde. Et ça m'a donné envie de le poser sur le papier.
Bon, peut-être qu'on peut... on peut se pencher un peu sur votre nouvelle. On va commencer par vous, Yves. Donc, votre nouvelle porte un titre... Un titre poétique pour faire un lien avec Colette. Et il ventait devant sa porte.
Oui, j'ai eu envie de raconter des histoires que j'ai vécues et de les associer au vent qui traverse le plateau de Millevaches, de les associer aux ressources sensorielles apportées par la nature. Et de l'expérience ultime de cette souffrance de bébés, d'enfants qui sont soumis à des ennuis et dont j'ai eu la chance de les voir ultérieurement ressurgir comme des adultes formidables.
Oui, parce qu'on pour revenir sur la citation de Clancier, elle portait une sorte de programme quand même qui pouvait éventuellement amener dans des univers un peu compliqués. Quoi. Alors là, il s'agissait de...
Oui, on peut la relire. Hein. Il faut nous émerveiller de ce que la vie comporte, malgré les heures ternes et malgré les heures tragiques, des îles claires où l'amour nous révèle la grâce des êtres et des instants. Donc oui, on a Sisyphe remontant son rocher, on a la résilience. Je pense que pour la grâce des êtres et des instants, il suffit de se tourner autour de nous.
C'est quelque chose qui, dans votre parcours professionnel, ça a été quelque chose d'important de trouver ces moments-là. Parce que j'imagine quand on est médecin pédiatre, et peut-être vous avez été confronté à des choses compliquées
du
point de vue humain, émotionnel.
Oui, je pense que des phrases comme ça nous aident à surmonter des phrases toutes faites quand on nous dit « mais comment tu fais pour supporter tout ça? Comment tu fais pour fabriquer l'armure ?» L'armure n'est pas une solution, l'armure c'est le gouffre, c'est se diriger tout droit vers l'épuisement. Au contraire, je crois qu'il faut rester sensible, il faut rester dans la peine quand il y a de la peine. Mais il faut pouvoir en faire quelque chose. C'est la trajectoire d'une vie.
On peut peut-être parler de la nouvelle, du coup. C'est une histoire. Alors, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que c'est une histoire vraie,
bien sûr,
comme on dit?
Oui, c'est 100% vrai. Un peu concentré, hein, c'est-à-dire que plusieurs épisodes sont mêlés, mais tout est vrai. Tout est vrai.
On peut peut-être dire en deux mots. Peut-être qu'on peut faire comme vous avez fait ce matin, au moment de la remise des prix. J'avais trouvé que c'était une manière intéressante de résumer la nouvelle sans la résumer non plus, en donnant un peu la, en en donnant la trame. Vous aviez lu Les Inkipit.
Donc il y a quatre actes dans cette petite nouvelle. Premier acte, mariage pluvieux, où le contexte météorologique paraît terrible, puis finalement futile, et dans lequel, pour les personnages qui peupleront cette histoire, le babillage, ba-ba-ba-ba, celui des bébés, s'avère le plus audible des langages. Acte 2, c'est une rencontre, le débardeur et la petite princesse, où un observateur avisé trouve la limite de sa sagacité alors que le monde n'en montre aucune dans sa cruauté. Acte 3, 1000 mots, 1000 sources et une vache, où l'on comprend que si le monde n'a pas de sens et n'a pas non plus de fin, les hommes y participent aussi de leur folie, et dans lequel l'observateur avisé est frappé successivement sur le nez, puis dans son esprit. Et acte 4, le verdict, où l'on attend avec angoisse le verdict, sous des vents qui décidément n'auront jamais molli, et dans lequel, si le mot « amour » ne sera, par pudeur probablement, jamais prononcé, c'est bien ce souffle d'humanité qui aura accompagné les passagers dans leur grande traversée. Donc, peut-être oui, en quelques mots, j'ai vécu cette histoire d'une maman qui, le jour de son mariage, arrive en robe blanche et apporte son enfant pour se faire soigner en urgence. Et dans ce milieu un peu étrange où la maladie côtoie avec des clowns, avec des besoins de se projeter vers l'avenir, certainement que les expériences de la vie d'une petite fille sont différentes et l'amèneront à se forger une idée de l'avenir qui est un petit peu différente de celle des autres.
Oui, on peut dire que c'est en service pédiatrique, en oncologie pédiatrique.
C'est ça, oui, on dit comme ça.
Et donc, alors, on va pas dévoiler tout ce qui se passe dans la nouvelle, parce qu'on vous invite à la lire. Mais en tout cas, on peut imaginer que dans cette situation compliquée va surgir un îlot de lumière.
Oui, parce que les enfants restent des enfants qui rencontrent d'autres enfants qui vont avoir une influence définitive sur leur évolution, parce qu'ils rencontrent d'autres adultes qui vont les mener vers des préoccupations qui seront les leurs, et parce que en fait le fait pour chaque enfant d'avoir son projet y compris professionnel, c'est quelque chose qui se forge dans l'enfance.
Vous avez des questions, peut-être, Elliot ou Élise?
Vous avez dit tout à l'heure que c'était la première fois que vous écriviez. Mais du coup, comment est née cette envie-là à ce moment-là? Est-ce que c'est la citation particulièrement qui a éveillé ça?
Alors, c'est la citation qui l'a éveillé, mais c'est vrai que dans beaucoup de circonstances où j'ai essayé de vulgariser, entre guillemets, ce que peut être la vie d'un enfant face à la maladie. J'ai beaucoup parlé. Quand on se parle avec des étudiants, avec des collaborateurs, on se parle beaucoup de ces questions-là, ces questions de la vie, parce que finalement, traiter un enfant, c'est bien sûr lui donner des médicaments, mais c'est aussi essayer de contribuer à lui insuffler un appétit de vie en général. Peut-être pas tellement pour mieux guérir en termes de maladie ou en termes de pourcentage de guérison, mais mieux guérir comme homme ou comme femme. Qu'est-ce qu'on devient? Comment on devient un adulte après avoir traversé une période comme celle-ci?
Colette, est-ce que vous avez une question pour Yves ou quelque chose à lui dire?
Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que ça me permet de découvrir qu'on a des approches très différentes après avoir lu une citation. Moi, je l'ai traitée tout à fait différemment, mais peut-être que par moment, il y a des petites choses qui se rejoignent sur le fait que la vie a un goût totalement différent lorsqu'on a surpassé la maladie, par exemple. Hein, on n'est plus pareil, on est changé et on voit le monde autrement. Effectivement.
Mais du coup, on va peut-être parler aussi de votre texte qui est très différent, dans une ambiance vraiment très différente. C'est deux textes, c'est bien que vous soyez en même temps parce que ça contraste. Donc, votre texte, on peut donner son titre, ça s'appelle Arrêt sur image.
Oui, donc c'est un arrêt sur image qui se passe dans un endroit où le personnage principal qui s'appelle Emma se retrouve enfin, je dirais après des années d'errance. Enfin, j'extrapole par rapport au texte de la nouvelle, mais bon, c'est pour un petit peu situer cette personne qui me ressemble étrangement, sans être totalement moi, mais quelqu'un qui se retrouve enfin dans le lieu où elle aurait voulu vivre toute sa vie et dont elle a été privée. Elle a vécu un exil qui a duré plusieurs décennies et enfin la voilà revenue. Et il y a un arrêt sur image, c'est-à-dire qu'à certains moments où elle se retrouve seule, eh bien, des images arrivent, des pans de sa vie reviennent. Et donc il y a un petit défilé comme ça. Elle a fait le choix d'arrêter ce qu'elle faisait avant et de complètement se centrer sur ce peut-être pourquoi elle aurait été faite mais qu'elle n'a pas pu réaliser. Voilà, c'est l'histoire d'un rêve qui se réalise dans un lieu où elle a tellement eu envie d'être, hein, et ça se situe effectivement dans ce petit coin de à la limite de la Corrèze et du Lot, qui est un paradis sur terre pour elle, hein. Et donc elle va redécouvrir, parce qu'elle en a été privée pendant très très longtemps, et en même temps elle va aussi faire le choix de la poésie. C'est un domaine qui était peut-être ancré en elle depuis longtemps. C'est un personnage qui est plein d'émotions, qui est à fleur de peau et qui effectivement là va pouvoir enfin donner libre cours à son imagination. Et elle parcourt des paysages qu'elle avait connus il y a très très longtemps et qu'elle redécouvre, et tout d'un coup tout arrive comme un boomerang en fait, hein. Elle reprend tout en pleine figure.
Et peut-être à l'inverse du texte dont on parlait juste avant, qui était plutôt un condensé et puis qui se déroule sur des décennies au final. Là, on est vraiment sur le déploiement d'un instant. Ça dure, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais c'est assez bref, peut-être une heure.
Ça se situe en début de journée, c'est à l'aube, elle est toute seule. Bon, il y a du monde dans sa maison, personne n'est réveillé. Et donc, pour elle, c'est le temps de la rêverie, ce qu'elle adore faire, prendre du temps pour rêver. Et c'est ce qu'on ne prend plus aujourd'hui. Et peut-être aussi oser s'ennuyer pour peut-être avoir un esprit plus ouvert et plus créatif.
Moi, j'avais une question sur les auteurs peut-être qui vous inspirent ou que vous aimez particulièrement, qui vous nourrissent.
Alors, j'ai beaucoup lu. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas Internet. Effectivement, il y avait la bibliothèque municipale de Brive-la-Gaillarde que j'ai beaucoup, beaucoup fréquentée. Je suis issue d'une famille très pauvre. J'ai un père ouvrier et une mère femme de ménage. Donc, la culture à la maison n'y était pas. Par contre, quand elle se présentait sous la forme d'une bibliothèque ou d'un cinéma de quartier, j'étais très avide de tout ce qui pouvait m'arriver par le biais de la lecture. Et donc, j'ai pris tout ce qui passait à ma portée, je m'en suis nourrie, mais aujourd'hui, je travaille beaucoup dans des recueils de poèmes, mais j'évite de trop lire parce que je ne veux pas m'imprégner, je veux vivre de ce que je suis. Ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout, hein. C'est parce que je veux piocher en moi ce que j'ai, je veux le mettre sur un papier, je veux l'écrire, parce que c'est une affaire entre moi et moi, mais qui s'ouvre aux autres, hein. C'est des thèmes qui peuvent intéresser d'autres personnes aussi, mais ça tient un peu de la thérapie, mais bon, ça fait du bien, écrire fait du bien, voilà. Par exemple, en poésie, j'ai un auteur que je ne peux jamais lire sans pleurer, qui s'appelle Nazım Hikmet. C'est un poète turc qui est décédé depuis un certain temps, qui était très engagé, qui a vécu les prisons turques parce que, de par ses positions. Comme quoi on peut être poète et enfermé pour ce que l'on écrit. Lui a passé de nombreuses années en prison, mais il a une manière d'écrire qui m'émeut, qui me touche au-delà de ce que je pourrais imaginer. Voilà, c'est vraiment un choc émotionnel, une rencontre. Il y en a très peu.
Et vous, du coup, je me permets, et vous, est-ce qu'il y aurait des auteurs qui vous inspirent ?
Dans la réflexion, Albert Camus me reste irremplaçable. Et je suis très sensible aussi aux écrits de Toni Morrison sur... les liens comme ça entre l'individu, son milieu, les autres.
J'ai une question encore pour Colette. Comment on passe de l'écriture de la poésie à une nouvelle ? Est-ce qu'il y a un saut ? Est-ce que ça se fait naturellement ? Parce que c'est quand même vraiment des perspectives différentes. Ce n'est pas déjà la même durée.
Exactement. Ouais. Oui. La poésie, c'est un texte court où il faut choisir les mots parce que ce qu'on a à dire, ça va se tenir sur une page, voire deux. Eh ben, la nouvelle, ça me permet de développer certaines choses que je ne peux pas dire dans un poème. Et puis, je veux dire, la rencontre avec la citation de Georges-Emmanuel Clancier m'a vraiment incité à passer le cap et à me dire ben, pourquoi pas une nouvelle. Une nouvelle, c'est une dizaine de pages. C'est pas encore un livre, mais ça demande un effort plus important dans la durée. C'est un peu comme une course. Hein. On n'est pas dans un 100 mètres, mais on est plutôt dans plusieurs tours de stade. Mais c'est un challenge très agréable. Où je me suis sentie très à l'aise.
Et c'était quoi juste la durée qui vous a été donnée pour...
Le nombre de signes, on dit.
Oui, mais le nombre de signes, mais aussi combien de temps vous avez eu pour l'écrire ?
Ah, combien de temps ? Ben, à partir du moment où je me suis inscrite, mais là, j'avoue que je ne me souviens plus très bien.
Quoi,
okay, bon, enfin, en tout cas, on nous demande un nombre de pages, une dizaine de pages maximum, c'est ça, oui.
Moi, je me disais, j'avais une petite réflexion. Je me disais, en tout cas, pour vous deux, ça fonctionne. Vous avez tous les deux puisé dans vos vies personnelles, vos vies réelles, pour écrire en sublimant, évidemment, en faisant de la littérature. C'est quoi ? C'est parce que c'est à disposition, c'est notre expérience. Vous n'avez pas voulu aller vers plus de fiction. En tout cas, vous avez peut-être suffisamment de choses à dire sur vos expériences réelles. Comment se fait ce choix ?
Alors moi, j'ai tenté l'expérience d'un roman, mais d'un récit poétique. Donc on inclut dans le texte des extraits ou des poèmes pour aller plus loin un peu par réaction parce qu'aujourd'hui la poésie c'est très difficile à présenter, à faire comprendre, parce que les gens se sont éloignés de la poésie, même s'il y a le printemps des poètes qui existe, qui a été remis en route et ça permet de très très belles expériences, mais en même temps, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient un petit recul là, quand ils voyaient que ben, qu'en ouvrant le livre, c'était finalement des recueils de poèmes. Donc c'est très intéressant de parler avec ces gens pour leur demander pourquoi ils n'aiment pas trop la poésie. Souvent ce sont des souvenirs d'enfants avec des poèmes à apprendre, un peu compliqué, qu'on ne comprenait pas, on avait peur de se tromper parce qu'on aurait une mauvaise note, etc. C'est souvent cette raison qui est là. Et puis, le manque d'expérience de lecture de poésie, parce qu'on s'est coupé, parce que ça n'était plus dans l'air du temps, tout simplement. Mais bon, grâce au Printemps des Poètes, ça revient et c'est tant mieux, sous différentes formes. On n'a plus forcément les alexandrins ou les rimes obligatoires. Et donc, ça, c'est une chose intéressante. Et donc, en pied de nez, je me suis même lancée dans l'écriture d'un recueil qui commence par une question. Vous reprendrez bien un peu de poésie, comme un peu à la fin du repas, quand on dit aux personnes, vous reprendrez bien un peu de dessert. Voilà, donc c'est un petit peu pour lancer la discussion et pourquoi pas amener des gens à lire de la poésie aussi.
Oui, alors pourquoi partir de sa propre vie ? J'ai pensé deux ou trois fois en essayant d'écrire à ce que disait le cinéaste Guédiguian, qui disait avec son bel accent « je filme ou je montre ce qui me fonde », disait-il, et je n'ai pas d'autre réponse que celle-là, c'est ce qui me fonde.
Ça vous a donné envie un peu de continuer à écrire ? Alors vous, c'était déjà le cas, Colette ? Yves ?
Oui, peut-être, oui, pourquoi pas, pourquoi pas.
Bon, merci pour ce partage et puis on vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous.
À vous.
Merci.